Merci beaucoup Sarah Petitbon. Prochain journal sur France Culture à 9h. Bonjour à tous, bienvenue dans le secret des sources.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Mettezo.
Il est le dernier arrivé des chefs de gouvernement de l'Union européenne. Il est l'un des plus jeunes et surtout l'un des plus médiatisés. Il y a 5 semaines tout juste, Alexis Tsipras devenait Premier ministre de la Grèce et son parti Syriza remportait la majorité à la Vouli, le Parlement grec. Et l'on découvrait ce jeune élu, sans cravate et sans concession face à Bruxelles et Berlin, mais qui peu à peu apprend les compromis avec l'Europe. Compromission, diront certains. Y a-t-il un storytelling Tsipras? Comment qualifier Syriza? Les médias sont-ils tsiprasophiles ou tsiprasophiles? Ou tout simplement Tsipras objectif. Les journalistes peuvent-ils rendre compte de la situation politique et économique grecque sans être enfermés dans un parti pris idéologique? Pour en parler ce matin en studio à Paris, Annabelle Grelier, reporter à France Culture, Rosa Moussaoui, reporter à l'Humanité, et Arnaud Leparmentier, éditorialiste au Monde, directeur adjoint de la rédaction. En direct d'Athènes, nous retrouverons Hélène Koliopoulou de l'agence France Presse, et en direct de Berlin, Cyril Sauvageau, le correspondant de Radio France en Allemagne. Avec nous également Isabelle Véramasson, chercheuse au CNRS, et Élodie Font pour la chronique multimédia. Vous nous direz, Élodie, si Syriza est un parti connecté et moderne, ou encore plutôt traditionnel en la matière.
Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν στον Αλέξη Τσίπρα χιλιάδες υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την οριστικοποίηση της καθαρής πρωτιάς του κόμματος στις εκλογές. Από τα προπήλαια, ο θριαμβευτής της βραδιάς προανήγγειλε το τέλος της λιτότητας και του μνημονίου και έθεσε ως προτεραιότητα να αποκτήσει η χώρα τη χαμένη της αξιοπρέπεια.
Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της.
Ce soir, nous avons le droit de faire la fête. Notre objectif, dès demain, sera de rétablir l'emploi et ramener nos milliers de jeunes qui sont partis à l'étranger.
Ensemble, nous dimanche 25 janvier, au soir, dans les rues d'Athènes, la liesse populaire après la victoire de Syriza aux législatives anticipées. Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage de la télé grecque et de notre collègue Annabelle Grelier qui va nous raconter dans quelques instants son interview avec Tsipras. Mais d'abord, notre chronique image, notre instantané. Bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Tsipras est une image à lui tout seul.
Je servirai toujours la Grèce et l'intérêt du peuple grec. C'est sur ces mots qu'Alexis Tsipras, en costume bleu et sans cravate, a prêté serment.
En costume bleu et comme à son habitude sans cravate, Alexis Tsipras a prêté serment ce lundi.
Ça paraît assez étonnant et puis il ne porte jamais de cravate.
Les journalistes du monde entier l'ont martelé. Élodie Font, Alexis Tsipras ne porte pas de cravate.
Si je ne porte pas de cravate, c'est que je refuse d'adopter les codes de ceux qui nous gouvernent depuis trop longtemps. Et son refus de la cravate, c'est donc une signature politique et non juste une commodité. En revanche, dans sa révolution vestimentaire, Tsipras s'est arrêté à la cravate puisqu'il n'a pas réussi à échapper au code du costume. Il en porte des gris, des bleus, des noirs, rien de très original. Et sous les costumes, des chemises tout aussi classiques, même si le premier bouton est toujours ouvert pour afficher une possible décontraction. Alors pourtant, attention, il y a du dossier. La première fois qu'on le découvre à la télévision grecque, Alexis Tsipras a 16 ans. Et à l'époque, il apparaît à la caméra avec un combo parka violette, pull marron et limé qui donnerait aujourd'hui des crises de tachycardie à ses conseillers en communication. Privilège de la jeunesse, ses cheveux noirs sont aussi plus fournis, avec une mèche à la Justin Bieber et une pré pré-barbe, avec quelques poils par-ci, par-là, on comprend qu'il les rasait depuis. La question, c'est pourquoi ont été filmées ses errances capillaires et vestimentaires ? Eh bien, parce qu'il est déjà militant, son combat à l'époque, le droit à l'absentéisme pour les étudiants, c'est ça, le droit de ne pas venir en cours. Je ne sais pas s'il défendrait avec la même vigueur cette idée aujourd'hui, parce que, bien sûr, l'image d'Alexis Tsipras s'est polissée avec les années. Plus un cheveu noir ne dépasse, des sourires à s'en décrocher la mâchoire, la même très belle femme depuis 20 ans et un physique d'acteur. Dans un téléfilm, personnellement, je l'imaginerais bien en policier ou en juge, ou alors, pour lui faire plaisir, en révolutionnaire. Après tout, son deuxième fils s'appelle Ernesto, comme le Che, et sur les clichés que l'on prend de lui, il lève très souvent le poing, le poignet visible, une montre impressionnante collée dessus. Il en change, j'en ai compté au moins trois différentes. Et pour quelqu'un qui joue la montre dans tout un tas de domaines, c'est un accessoire que l'on imagine plutôt bienvenu, Frédéric.
Merci Elodie, on vous retrouve tout à l'heure dans le courant du secret des sources pour parler des réseaux. Annabelle Grelier, vous avez interviewé pour France Culture Alexis Tsipras en 2012. Alors, racontez-nous comment ça se passe, comment on interviewe Tsipras, quelle est sa part de calcul et sa part d'authenticité selon vous ?
Oui, alors, il faut remettre quand même dans le contexte, hein, parce qu'on est en 2012. La première fois que j'interview Tsipras, c'est en 2012. Il vient d'arriver en seconde position sur les élections législatives. Et Alexis Tsipras, il est tout récent. Hein. Il est le leader du Syriza depuis 2009. Son parti est tout neuf.
Jeune parti, jeune leader.
Voilà, et jusque-là, il plafonne à 5% hein, dans les élections, donc on ne l'attend pas. Hein. C'est la vraie surprise de scrutin, c'est l'effondrement du PASOK. Samaras, je viens de jeter l'éponge, il ne peut pas faire de coalition, donc la règle veut que ce soit le second qui reprenne le gant, on va dire. Donc, c'est Tsipras. Et ce soir-là, tout le monde le cherche, puisque c'est à lui de former un gouvernement. Et je fais comme tout le monde, je fais la demande auprès de son attaché de presse et elle me répond, comme tout le monde, que ce n'est pas possible, il ne répond à aucune interview. Bon, alors à partir de là, on fait, comme tous les journalistes qui se cassent les dents, eh bien on se dit, on va trouver une autre idée.
Un plan B.
Un plan B. Ben, le plan B, c'est Manolis Glezos. Parce que Manolis Glezos, c'est le résistant, c'est un monument, c'est une figure hein, en Grèce. Il a 92 ans, c'est lui qui a décroché le drapeau nazi de l'Acropole. Voilà. Et il fait partie du Syriza, il est presque membre fondateur, on va dire. Donc, on y arrive et il nous dit « Ok, venez chez moi à 22h ». On arrive, il nous ouvre la porte, très bien, on est très content de le rencontrer. Et dans le salon, on voit Manolis Glezos avec, effectivement, un jeune homme. Et je regarde mieux et je me dis, mais c'est Alexis Tsipras. Donc, évidemment, tout de suite, j'y vais. Je dis, excuse-moi, est-ce que je peux avoir une interview ? Et il est là, et il me dit, mais je suis venu ici aussi pour vous rencontrer. Faites l'interview avec Manolis Glezos, prenez votre temps, je vous attends. Et effectivement, ce soir-là, il m'a attendu 45 minutes pour faire une bonne interview.
Et justement, on va écouter un extrait de votre reportage diffusé le 8 mai 2012 sur France Culture.
Un homme d'une quarantaine d'années vient d'entrer dans le salon. C'est Alexis Tsipras, le leader du Syriza. Si son parti n'était encore la semaine dernière qu'une petite formation qui plafonnait à 3 ou 5% à chaque élection, c'est pourtant à lui qu'il incombe aujourd'hui de former un gouvernement. La nouvelle vient de tomber et il est venu chercher des conseils. Passer de l'ombre à la lumière en quelques jours ne semble pas l'effrayer plus que ça. Et c'est, on peut le dire, d'un calme olympien qu'il répond à notre question.
La sortie de cette impasse sera possible quand tous les partis réaliseront qu'ils ne peuvent pas appliquer une politique avec laquelle la majorité du peuple grec n'est pas en accord.
Annabelle Grelier, on entend donc la voix d'Alexis Tsipras, qui est bien sûr traduit en français. Vous y croyez à cette spontanéité ou au contraire, c'est un storytelling tellement abouti que nous-mêmes, on ne le voit pas forcément au premier abord.
Alors voilà pourquoi moi j'ai du mal à voir les storytelling, comme vous dites, parce que moi ce jour-là, je suis face à quelqu'un qui n'a pas d'attaché de presse, qui est tout seul, qui m'attend 45 minutes dans le salon quand même, et puis qui me parle tout simplement, sans effet, sans artifice.
Alors on va aller à Athènes justement, où nous attend ce matin Hélène Kolliopoliou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour l'agence France Presse à Athènes. Vous êtes à demeure en Grèce. Vous avez sans doute beaucoup étudié. Vous l'avez peut-être même croisé, Alexis Tsipras. Alors, Tsipras, roi de la com ou pas ? roi de la communication.
Oui, on a fait une interview lors des européennes, en fait, des élections européennes, au nom de l'AFP, en avril dernier, quand ils sont partis, en fait, c'était le premier de ces élections. Donc, on a fait une interview d'Alex Tsipras, et à l'époque, c'était, en fait, notre titre, c'était le New Deal pour l'Europe, en fait. C'est ça, en fait, qui était, en fait, à la tête de sa campagne, voilà.
Vous trouvez qu'il parle franchement avec les journalistes, il joue franc jeu ou il essaye de se dissimuler derrière des formules percutantes, mais peut-être pas forcément très, très fouillées. D'après vous, le jugez comment comme personnage de communication avec les journalistes ?
Je crois qu'il a une expérience politique, comme vous l'avez déjà dit, en fait, assez longue. Donc, il sait vraiment répondre. Il a une langue plutôt dure et pas de bois, mais quand même, il a une langue de parti. Donc, il sait très bien comment répondre. Il a un calme olibien, comme notre collègue a dit. Et je crois qu'il sait comment faire et comment faire en sorte pour dire ce qu'il veut dire. Voilà.
Alors, tour de table ici à Paris. Rosa Moussaoui, l'Humanité, vous rentrez tout juste de Grèce, vous y êtes allée à plusieurs reprises. Est-ce que Tsipras est un nouveau communicant talentueux type Tony Blair ou Matteo Renzi ?
Je crois pas, je crois qu'il incarne vraiment une rupture avec une classe politique qui a été balayée en Grèce, hein, qui était vraiment l'objet de très nombreuses critiques et d'un rejet massif du peuple grec, du fait de la corruption, du fait du népotisme, du fait des mensonges aussi qui ont été multipliés ces dernières années. Et c'est pas seulement Tsipras, je crois que la plupart des membres du gouvernement incarnent cette nouvelle classe politique.
Vous appelez la génération Syriza au pouvoir.
En tout cas, ceux de la génération de Tsipras, oui, ce sont des gens qui réfléchissent depuis de très nombreuses années maintenant à essayer d'ouvrir une autre voie à gauche que celle de la social-démocratie ou celle du communisme à l'ancienne. Et ils sont vraiment, dans une démarche sincère de rechercher de nouvelles façons de faire de la politique.
Arnaud Parmentier, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Monde, sur la posture de Tsipras, on l'a dit, il n'a pas de cravate, il essaye de parler une langue soi-disant différente.
Oui, ça, honnêtement, je m'en fiche complètement. C'est-à-dire que...
De la cravate, vous en
fichez. De la cravate, Matteo Renzi non plus n'a pas de cravate, il vous reçoit en blue jean.
Non, il la porte et il lui en a offert une, d'ailleurs.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une... dans une thématique européenne et je pense que il faut pas, on a cédé pendant des semaines en France à ce romantisme révolutionnaire de la gauche, d'une nouvelle gauche qui ne serait pas la social-démocratie. Et nous, au Monde, alors moi particulièrement, on a mis en garde sur le fait que c'était pas la démocratie contre la technocratie, par exemple, en Europe.
Le Monde, c'est Arnaud Le Parmentier qui parle ou c'est le journal Le Monde qui s'engage sur cette ligne ?
Il y a deux choses. Il y a en éditorialiste, à titre personnel, les chroniques que j'ai signées où j'ai parlé très tôt de l'affaire. Donc j'ai commencé par dire en décembre, attention, les élections reviennent. Ça va remettre le souk ou remettre un problème compliqué à gérer en Europe, que ce soit en Grèce, en Espagne, et pour montrer qu'il peut y avoir des conséquences de déséquilibre sur la zone euro. Je me suis moqué du meeting au gymnase Japy où il y avait Mélenchon. C'était très amusant, donc on se faisait peur, c'était révolutionnaire. Et il y a la ligne du journal, qui peut être différente, qui dans ce cas-là est un petit peu différente. Le journal, le jour où Tsipras a été élu, a souhaité bienvenue, mais en expliquant qu'il fallait honorer ses dettes, trouver des compromis européens et ne pas briser l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, on est pour la solidarité avec les Grecs, mais on est aussi pour sauver l'Europe. Et donc, on ne rentre pas dans cette stigmatisation qui a été faite des Allemands par les Grecs depuis le début de la crise. Et c'est vraiment fondamental de ne pas rentrer dans cette détestation de l'Allemagne. Pour nous, au Monde, la priorité éditoriale, c'est quand même la relation franco-allemande et l'Europe. Et les Grecs doivent rentrer dans cette solidarité démocratique.
Rosa Moussaoui de l'Humanité souhaite intervenir.
Ouais, c'est extraordinaire d'entendre parler de stigmatisation de l'Allemagne. Dans vos éditoriaux, vous stigmatisez le peuple grec avec beaucoup d'inexactitude. Par ailleurs, ce n'est pas une histoire de romantisme révolutionnaire. On a quand même un bilan de l'austérité qui n'est pas seulement un bilan social catastrophique, c'est un bilan économique totalement désastreux, avec une dette qui a explosé, qui est passée avant les plans d'austérité de 109% du PIB à 180% aujourd'hui. Donc c'est pas une histoire de romantisme révolutionnaire. Tsipras, là où il l'emporte, c'est qu'il propose justement une politique qui soit pas celle qui a mené au désastre depuis 5 ans.
Rosa Moussaoui, si vous voulez bien, on va débattre avec Arnaud Leparmentier et l'ensemble des journalistes autour de cette table du bilan de la Troïka, mais j'aimerais d'abord qu'on se rende en Allemagne.
Tausende Syriza Anhänger haben das Wahlergebnis in Athen ausgelassen gefeiert. Die Partei hat gut 10% mehr Stimmen als bei den Wahlen 2012 geholt. Tsipras steht kurz davor, der jüngste Regierungschef seit 150
voilà,
Jahren
zu werden. Voilà, Euronews en langue allemande. Je vous résume en quelques mots, des milliers de personnes dans la rue. Tsipras, plus jeune premier ministre grec depuis 150 ans. Bonjour Cyril Sauvageau, correspondant de Radio France en Allemagne. Cyril, les médias allemands sont-ils plutôt tsiprasophiles ou plutôt tsiprasophobes?
Alors, vous ne trouverez pas grand monde dans la presse allemande pour prendre la défense d'Alexis Tsipras. Ici, il est vu avant tout comme un populiste, comme un beau parleur qui s'est fait élire sur des promesses intenables et qui a mis les Européens devant le fait accompli en annonçant de but en blanc la fin de l'austérité avant même d'avoir commencé à discuter. Et puis dès les premiers jours au pouvoir, il y a eu plusieurs décisions symboliques qui ont immédiatement plombé son capital confiance ici, comme le fait d'être allé tout de suite se recueillir au mémorial des fusillés du nazisme et d'avoir remis sur le tapis la question des réparations de guerre. Tout ça a été abondamment commenté dans la presse où, de manière générale, la victoire de Syriza n'est pas perçue comme un nouvel espoir pour l'Europe, mais plutôt comme une menace et un mauvais présage pour l'Allemagne.
Mais Cyril, hier matin sur France Culture, avant que le Bundestag ne valide une nouvelle tranche d'aide à la Grèce, vous nous expliquiez que le journal Bild avait lancé une véritable campagne contre Syriza et Tsipras.
Oui, alors il faut savoir que la Bild Zeitung est coutumière du fait. Hein. Déjà en 2010, il mettait en une des photos de Grecs buvant l'ouzo à la terrasse des tavernes en
le
disant
«
Regardez ce qu'ils font pendant que nous travaillons pour payer leurs dettes. » Et cette semaine, c'est vrai, Bild a appelé ses lecteurs à faire des selfies en tenant à la main une page du journal barrée d'un immense « nine », non à des milliards supplémentaires pour les Grecs, une campagne au relent nationaliste, mais qui a été très critiquée ici en Allemagne, notamment par la Fédération des journalistes. À part la Bild, il y a comme ce qu'il faut voir quand même, c'est que la plupart des journaux allemands sont quand même assez sévères vis-à-vis de Tsipras et aussi de son flamboyant ministre des Finances, Yanis Varoufakis. C'est un personnage d'ailleurs, Varoufakis, qui intrigue beaucoup les Allemands. Il faut dire que c'est à peu près l'exact opposé de son homologue de Berlin, l'austère Wolfgang Schäuble. Donc le ton général est plutôt méfiant, même s'il faut quand même le dire, la quasi-totalité des journaux reste favorable au maintien de la Grèce dans l'euro et plaide pour la solidarité entre pays de l'Union.
De Berlin, on va retourner à Athènes. Nous sommes toujours avec Hélène Kolopoliou de l'agence France Presse. Dites-moi, est-ce qu'en Grèce, on peut mesurer l'état d'esprit des médias, des grands médias en tout cas, écrit audiovisuel, plutôt anti-Syriza, plutôt pro-Syriza, pour ou contre le programme?
Ce que je peux dire, en fait, c'est que les principaux médias en Grèce, non seulement des droites, mais aussi du centre-gauche, étaient plutôt complaisants au gouvernement précédent lors de la crise, que ce soit des droites ou des socialistes. En même temps, ils étaient très critiques vis-à-vis de Syriza quand il était parti d'opposition. Et donc, avant sa victoire le 25 janvier, ils accusaient Syriza d'être anti-européen, de ne pas pouvoir gouverner parce qu'ils n'ont pas d'expérience, en raison des tiraillements au sein du parti, et en raison aussi de son discours dur contre les créanciers. Mais après sa victoire, Tanea, par exemple, qui est le plus gros tirage du pays, et qui est traditionnellement, en fait, un journal de centre-gauche, est devenu beaucoup moins critique. Et lors, par exemple, des dernières tractations avec l'Union européenne sur la poursuite du plan d'aide, ils avaient adopté une ligne beaucoup plus souple en indiquant que les Syriza essayent d'arriver à un compromis avec les créanciers. Et je rappelle que dans le passé, en fait, Tanea, le même journal, qualifiait souvent l'actuel Premier ministre comme un garçon révolté, en faisant allusion à son âge qui a 40 ans, donc beaucoup plus jeune que la moyenne des politiciens grecs, et aussi en l'accusant de manque d'expérience. Donc, voilà, on a toujours les journaux de droite, comme Eleftherostypos, qui titre toujours, qui sont toujours critiques et beaucoup plus réservés. Par exemple, Eleftherostypos titrait aujourd'hui « Le gouvernement a semé les promesses et récolte la tempête de réaction ». Et on a Casimirini, qui est libéral, qui dit en fait que le gouvernement a dû céder et aux exigences des créanciers pour arriver à un accord avec eux. Voilà.
Oui, donc il y a des doutes dans la presse grecque. Merci beaucoup Hélène Colliopoliou d'avoir été en direct ce matin dans le Secret des Sources. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence France Presse à Athènes. On va reprendre donc ce débat qui a débuté entre Rosa Moussaoui de l'Humanité, Arnaud Le Parmentier du Monde. Mais d'abord une question à Annabelle Grelier et à Rosa Moussaoui. Vous vous êtes rendue à de multiples reprises en reportage en Grèce. C'est une situation économique, sociale,
une
difficile,
crise
tragique,
humanitaire. Oui.
Humanitaire, Annabelle.
Oui, vraiment. Oui, parce que c'est facile. Enfin, on peut dire oui, c'est dur pour les Grecs, mais tant qu'on l'a pas vu, tant qu'on n'est pas allé voir un peu comment ils vivent, c'est pas une vraie réalité pour nous, l'austérité. On dit qu'on vit l'austérité en France, mais ça n'a rien à voir avec l'austérité qu'on peut vivre en Grèce.
Qu'est-ce que c'est l'austérité grecque alors ?
C'est des gens qui ont, par exemple, ceux qui ont du travail, qui continuent à avoir du travail parce que beaucoup en ont perdu. Ils ont perdu 20 à 30% de salaire. Des fois, ils ont du travail, mais ils ne sont pas payés. Des retraités qui perdent 30, 40% de leur retraite. Bah, ces gens-là, par exemple, et puis il va y avoir tous les prix qui augmentent en Grèce. Faut pas oublier ça. Et bah, des gens qui vont, par exemple, aller couper du bois, des arbres dans les rues d'Athènes pour se chauffer parce que la facture d'électricité, ils ne la paieront pas. Ils vont toujours économiser ça.
Et... Les retraites diminuer drastiquement.
Il y a eu 7 diminutions de retraite. Alors bon, si vous avez une retraite confortable, tant mieux, mais si vous n'avez pas grand-chose, il y a beaucoup de gens qui ont plongé dans la misère, réellement.
Mais alors, question peut-être un peu cynique à vous, Annabelle Grelier, vous, Rosa Moussaoui, surtout quand on est dans un journal engagé comme l'Humanité, quand on a vu ces choses difficiles, est-ce qu'on peut avoir encore un raisonnement rationnel sur la validité ou pas d'une politique ? Et je pense qu'Arnaud Le Parmentier va nous parler, lui, d'arguments rationnels, budgétaires, de dettes, d'endettement et qui peuvent être entendus par des gouvernants. Rosa Moussaoui.
Moi, je crois que notre métier, c'est aussi de rapporter des faits. Et lorsqu'on parle, par exemple, effectivement, des retraites coupées, de ces 30% de Grecs qui n'ont accès à aucune protection sociale et qui ne peuvent pas se soigner, lorsqu'on parle des enfants qui s'évanouissent dans les écoles parce qu'ils n'ont pas à manger, on doit rapporter ces faits-là. Ça fait aussi partie du débat politique. Et puis après, il faut dire les choses réelles. Tout cet argumentaire, par exemple, consistant à dire les Grecs sont à la terrasse du café et sirotent l'ouzo. Juste pour donner un chiffre, en 2010... Le temps moyen hebdomadaire de travail en Grèce, c'était de 41 heures. C'était de 36 dans la zone euro.
Les magasins se convergent jusqu'à 22 heures. Donc, les gens
donc à un moment donné, parlons,
quand ils ont un
parlons de choses réelles, de choses chiffrées, de choses quantifiables et ayons un débat là-dessus. Dépeindre les Grecs comme des paresseux, des dépensiers, des cigales, etc., ne résiste pas ni à l'examen du réel, ni à des chiffres que n'importe qui peut trouver sur le site d'Eurostat, par exemple.
Arnaud Le Parmentier, du journal Le Monde, vous avez signé un édito qui s'appelle « Le masque de la tragédie grecque » et vous établissiez un parallèle entre les pays baltes que vous jugiez plutôt vertueux et la Grèce plutôt laxiste. D'ailleurs, je dois dire la Grèce ou les Grecs ?
La Grèce. La Grèce, mais comment dire les choses ? Il faut voir d'où on part quand on examine ce qui s'est passé en Grèce. Depuis le début, là, on part de « Ah, il y a de l'austérité depuis 4 ans ». Moi, je pense que le début de l'histoire, c'est quand les Grecs rentrent dans l'euro avec des chiffres qui sont trafiqués et qui décident, sur cette période de rentrée de l'euro, la décennie avant 2007, de doubler leur nombre de fonctionnaires, d'augmenter les salaires de plus de 40%. Et on se retrouve en 2007 avec un budget de l'État grec qui dépense 115, pardon, là où il gagne 100.
Mais là, vous parlez des dirigeants grecs.
Non, moi, je ne fais pas de différence, je vous parle de la Grèce,
mais là. Il y a une différence.
Donc, après, vous avez 115 de dépenses de la Grèce globalement, elle gagne 100. Il y a un moment où il faut remettre les compteurs à zéro. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un plan d'aide, parce que la Grèce fait faillite, les taux d'intérêt s'envolent, elle menace de sortir de l'euro. Donc, on fait un plan d'aide qui est de 60 milliards prêtés par les Allemands globalement, par des manières diverses et variées, 40 milliards par les Français. Est-ce que jusqu'au bout, on va continuer de faire les fins de mois des Grecs ? Je pense que ça n'est pas possible. Ça n'est pas l'accord de l'euro. Les Allemands et nous, d'ailleurs, on a fait une monnaie unique en disant c'est une monnaie sans transfert financier, chacun gère comme il le devra ou comme il le peut en bon père de famille ses économies. Les Grecs ne l'ont pas fait. On a apuré le passé, pas le présent. Et il est logique qu'ils baissent leur niveau de vie. C'est tout.
Arnaud Le Parmentier, ce raisonnement que vous tenez, qui est un raisonnement basé sur des faits, des chiffres et qui est une façon de voir la réalité, quand on est journaliste, et j'imagine que Le Monde a envoyé des reporters qui ont vu la même chose que nos deux consoeurs. Est-ce que finalement ces chiffres ne sont pas balayés par la réalité extrêmement violente qui peut être rapportée dans des reportages ?
Non, mais on a des reporters qui sont allés, qui ont écrit la réalité grecque, mais on a aussi des reporters qui vont effectivement dans les Pays-Bas, en Lettonie, en Estonie, et les gens ont baissé leur salaire, ils ont beaucoup souffert. On a parlé de l'austérité française, je rappelle qu'il n'y a pas d'austérité en France, puisqu'on a des déficits supérieurs à 3% du PIB depuis 10 ans. Donc on est effectivement, il y a une espèce d'empathie, jeu de miroir franco-grec qui est de dire « Ah, nous sommes tous victimes de l'austérité ». Moi, je considère qu'il n'y a pas d'austérité en France, quand depuis 15 ans, on a des déficits supérieurs à 3% et une dette qui atteint 100% du PIB en France, me dites pas qu'il y a de l'austérité, je ne la vois pas. Donc je pense qu'il y a eu une projection des souffrances des Grecs sur ce qui se passe en France. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, où on s'est retrouvé au soir de la victoire de Tsipras, absolument 90% des gens en France, que ce soit l'extrême gauche, le Parti Socialiste qui s'est dit « je suis Tsipras » et le Front National qui ont tous salué cette révolution populaire grecque.
Tiens, justement, est-ce que vous vous posez la question dans vos rédactions, comment qualifier Syriza ? C'est la gauche, c'est la gauche radicale, c'est l'extrême gauche. Avant de vous donner la parole, on va écouter nos amis de France Inter qui, eux, se posaient la question le 6 janvier dernier, c'était avant l'élection grecque.
Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour Patrick Cohen.
De nouvelles gauches pas si rouges.
C'est à tort qu'on les qualifie d'extrême gauche. On le fait mécaniquement car Podemos et Syriza, les nouvelles gauches qui caracolent aujourd'hui en tête des sondages espagnols et grecs, sont effectivement nés de mouvements de jeunesse gauchisants et fédérés par le refus des politiques d'austérité auxquelles étaient associés les sociodémocrates de leurs pays respectifs. Ils se situent ainsi, c'est vrai, à la gauche des grands partis de la gauche européenne, mais cela ne fait pour autant pas d'eux des gauches rouges pour deux raisons. La première est qu'ils ne rêvent pas plus à Madrid qu'à Athènes d'un grand soir collectiviste.
Bernard Guetta, chroniqueur sur France Inter le 6 janvier dernier. On va entendre nos confrères présents autour de cette table ici à Paris. Mais d'abord, un petit détour à Berlin. Cyril Sauvageau, quand les médias allemands parlent de Syriza et de Tsipras, ils le qualifient comment ? De parti de gauche, d'extrême gauche. On sait que c'est en Allemagne qu'est né le mouvement Die Linke, qui est une scission du parti socialiste allemand, du SPD. Die Linke, ça veut dire la gauche.
Ça veut dire la gauche, oui, exactement. Mais, Syriza, c'est l'équivalent de Die Linke pour les Allemands, tout simplement. Mais c'est vrai que par rapport au spectre politique allemand, Tsipras, Varoufakis, Syriza, ce nouveau gouvernement grec sont très éloignés de la réalité politique allemande et on ne trouve quasiment personne ici en Allemagne, à part Die Linke, à part l'extrême gauche, pour soutenir ou pour se rapprocher de ce qui peut exister aujourd'hui en Grèce.
Et pour rebondir sur ce que disait Arnaud Le Parmentier, le soir de la victoire de Syriza, il n'y avait pas 90% des Allemands qui étaient contents ?
Ah non, 90% des Allemands qui étaient contents, non, certainement pas. Les Allemands ont été très, très inquiets de cette victoire de Syriza, on l'a déjà dit. Et encore une fois, à part Die Linke, qui a parlé d'un nouvel espoir pour l'Europe et qui en parle encore aujourd'hui, qui en ont parlé hier au Bundestag au moment du vote pour la poursuite du programme.
Vote très large.
Un vote extrêmement large, mais pour l'ensemble des partis politiques allemands et pour une bonne partie aussi de la population allemande, il y a d'abord une énorme inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe en Grèce pour l'Union européenne, pour la construction européenne.
Merci Cyril Sauvageau, correspondant de Radio France à Berlin. Arnaud Le Parmentier, Le Monde, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous avez un dogme sur la qualification de Syriza, gauche, extrême-gauche, gauche de la gauche ?
Non, on a gauche radicale ou extrême-gauche, on laisse aux auteurs leur choix. Au début, en une, on a parfois mis extrême-gauche, on est passé à gauche radicale. Je dirais que du fait qu'il soit de gouvernement, puisqu'il gouverne, mais que gauche radicale me semble appropriée.
Rosa Moussaoui, L'Humanité.
Eux-mêmes se qualifient de gauche radicale, donc j'utilise ce terme. J'ai aussi utilisé celui de plus conjoncturel, de gauche anti-austérité.
Gauche radicale et de gouvernement, la radicalité et la capacité à gouverner, est-ce que ça peut fonctionner ensemble, Arnaud Le Parmentier ?
Moi, je suis quand même surpris de la vitesse à laquelle des promesses sont enterrées. J'avais écrit que ça allait être très long et que ça allait causer des problèmes comme Mitterrand en 81, puisqu'on a le virage de la rigueur en 1983
seulement.
Il a mis deux ans. J'ai l'impression qu'ils ont mis trois semaines. Je reconnais que je me suis trompé en tirant la sonnette d'alarme trop fort, si je lis bien ce qui se passe. Mais je me trompe peut-être mes confrères ou consoeurs, pardon, vont dire que je me trompe encore.
On va reparler de ça dans quelques instants. On sera à Bruxelles, on sera à Athènes. Il est bientôt
9h20. Δεν μου ταιριάξαν, πήρα τ' άλλο μονοπάτι. Και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές. Που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ
το Παύλο Φίσας, ce rappeur grec assassiné par des militants néo-nazis d'Aube Dorée en 2013. Une chanson intitulée Forever with Us. On va retrouver Élodie Font pour la chronique numérique. Élodie, Syriza est-il un parti connecté ? Il semble, d'après vos recherches sur les réseaux, que le geek grec, c'est le ministre des Finances, Varoufakis.
Effectivement, c'est la véritable star des réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout Alexis Tsipras, mais bien Yanis Varoufakis. Silhouette de culturiste, faux air de Bruce Willis, crâne rasé, amour de la moto, passé de consultant pour une entreprise américaine de jeux vidéo, Valve. N'en jetez plus, voici Internet tout émoustillé. Et quelques jours seulement après l'élection d'Alexis Tsipras, Varoufakis est même devenu ce qu'on appelle un mème. Autrement dit, des photos de lui ont été détournées, le transformant ici en Spock, héros de la série de science-fiction Star Trek, là en Voldemort, ennemi d'Harry Potter, ou encore ici en personnage ultra musclé du jeu vidéo Street Fighter. Je vous conseille aussi d'ailleurs V for Varoufakis, clin d'œil à Vendetta et sa transformation en Terminator. C'est très rare que la communication virale d'un ministre soit aussi efficace. Mine de rien, en distillant des images du ministre en héros de films d'action ou de jeux vidéo, ses partisans alimentent le mythe de l'homme fort qu'il vaut mieux avoir dans son équipe que contre soi. D'ailleurs, cette popularité se perçoit dans les chiffres. Le nombre de ses followers sur Twitter a presque triplé en un mois. Ils sont autour de 320 000 aujourd'hui. Il faut dire aussi que Varoufakis adopte sur les réseaux la même stratégie que Cécile Duflot quand elle était ministre du Logement, mêler des informations politiques avec des anecdotes personnelles. Cette semaine, il évoquait Samuel Beckett et ses propres états d'âme. Il se moquait aussi d'ailleurs du journal Bild dont Cyril Sauvageau parlait. Une manière de s'exprimer qui, même si elle est très calculée, personne n'est dupe, donne l'impression que le ministre agit dans un esprit de transparence et le ras-le-bol de la langue de bois est tel sur Internet qu'en dialoguant simplement avec les internautes comme s'ils étaient des connaissances, Varoufakis marque des points.
Et Tsipras, alors sur les réseaux, il est moins offensif, dirons-nous, oui, que Varoufakis ?
Oui, plus effacé, c'est évident, plus polissé. Ses messages sur les réseaux sociaux sont très académiques, rien de personnel. Ce sont ses conseillers qui sont derrière, exactement comme pour les comptes de l'Élysée. Aucune trace de folie à déclarer. À peine découvre-t-on depuis quelques semaines quelques photos, dont une du bureau de Tsipras, très en ordre, avec un Mac, quelques feuilles et une lampe au goût douteux. Ah si, quand même, notons parce que ça se note qu'il retweet, il rediffuse aux gens qui le suivent les propos de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Il faut dire qu'il a de nombreux sympathisants à la gauche de la gauche française.
Et Syriza, en tant que parti, c'est plutôt la ligne Varoufakis ou la ligne Tsipras ?
Plutôt Tsipras. On est loin d'une campagne qui se serait faite en grande partie sur les réseaux sociaux, comme ça avait été le cas aux États-Unis où Barack Obama, pour son premier mandat en 2008 par exemple, avait été porté par la jeunesse du web et son célèbre Yes You Can. En Grèce, les réseaux sociaux sont restés assez sobres. Même le clip de campagne était particulièrement classique. Un discours de Tsipras, des applaudissements et c'est tout. C'est tout, autant le propos peut être novateur, autant la manière de le diffuser clairement pas. Le jour de l'élection, le web s'est comporté en revanche un petit peu différemment. Beaucoup d'images de la foule en liesse ont circulé, mais ce qui a été le plus partagé, ce sont des caricatures de la chancelière allemande Angela Merkel, on en parlait tout à l'heure. Pour ne rien vous cacher, les moqueries étaient plus ou moins douteuses. Le point Godwin, l'évocation des nazis et de la Seconde Guerre mondiale, a été quasi immédiate. Mais pour revenir au rapport entre Syriza et Internet, et de cette
disons, légère frilosité, on la ressentait déjà avant la campagne victorieuse de janvier. Un exemple, plusieurs citoyens ont décidé en mars 2014 de créer WooliWatch. C'est un site en grec pour surveiller les députés, savoir pour quelles lois ils ont voté et quelles sont leurs positions vis-à-vis des thèmes d'actualité. Le site a une croissance exponentielle, 30 000 visiteurs uniques en janvier, qui peuvent poser leurs questions aux députés, des élus qui, vous l'imaginez peut-être, répondent très peu. Et même si la refonte du système politique, même si la transparence ont été des axes de la campagne de Tsipras, avant les élections, sur les 52 sièges obtenus au Parlement par la coalition de la gauche radicale en 2012, seuls 4 députés avaient accepté de collaborer avec le site. Reste à espérer que les compteurs s'affolent un petit peu plus au cours des prochains mois.
Ça s'appelle WooliWatch, hein, la Wooli, c'est le Parlement grec. Merci Élodie Font. Alors elle a écouté les propos des uns et des autres avec beaucoup d'attention depuis le début de cette émission. Bonjour Isabelle Véramasson.
Bonjour.
Directrice du laboratoire communication politique du CNRS. Isabelle, à propos du traitement médiatique de la Grèce, vous nous confiez que vous avez vu se succéder très rapidement une série de stéréotypes nationaux. On est passé d'un stéréotype à un autre.
Oui, moi j'ai travaillé sur cette question des stéréotypes nationaux dans mes recherches et j'ai été frappée à quel point, avec l'arrivée au pouvoir de Syriza, on a vu une substitution de stéréotypes nationaux qui sont, à mon avis, à la fois intéressants et amusants. Alors, la Grèce du déficit, le premier stéréotype, on l'a vu dans un article effectivement d'Arnaud Le Parmentier du Monde, d'une certaine manière, il le fixe et il le rationalise, c'est les pays du Club Med, on imagine l'indolence naturelle, la tradition de foudre, d'irrégularité. D'ailleurs, c'est ancien cette idée, puisque Pierre Loti parlait des Grecailles en parlant des Grecs. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cette substitution d'une nouvelle Grèce qui est représentée par deux jeunes personnalités, deux corps offerts à travers l'absence de cravate au public, Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis, ministre des Finances, et d'une certaine manière j'ai vu une photo du Monde qui donne la clé de ce nouveau stéréotype où on y voit cet homme adossé à une colonne dorique, et là on est dans le stéréotype de l'Antiquité, des héros grecs, au calme olympien, mais possédant éventuellement une foudre, hein, on imagine qu'ils vont se venger contre la Troïka, ou peut-être de toute façon ils vont montrer un certain chemin, c'est d'ailleurs un chemin assez anachronique, ce serait plutôt celui du printemps des peuples, le 1848, dans lequel on va, comme ça on imagine assez, avec certains avec frissons de bonheur, d'autres avec frissons de peur, que ça va indiquer le chemin aux Italiens, aux Portugais, aux Irlandais.
Aux Espagnols.
En tous les cas, cette Grèce antique qui apparaît là aussi stéréotypée est assez étonnante. Je me suis demandé si les médias avaient été conscients ou avaient vu la même chose que moi. J'ai l'impression que d'une certaine manière, et c'est assez rare, les photos, les visages, les corps l'ont emporté sur le message, sur le contenu, et ils ont porté ce nouveau stéréotype de manière presque inconsciente. C'est comme si, encore une fois, cette nouvelle image, mais c'est souvent le cas des stéréotypes, s'était imposée à eux et qu'ils l'ont d'une certaine manière organisée, parce que, je reprends votre expression, Frédéric, il y a eu là un nouveau storytelling qui est toujours évidemment un bonheur pour les médias.
Il y a un autre stéréotype qu'on a vu débarquer très très vite, à peine un mois après l'élection de Syriza. On a commencé à en parler avec Arnaud Le Parmentier. Ce serait le stéréotype des soi-disant renoncement, voilà ce qui se disait à Bruxelles en milieu de semaine.
Les concessions consenties par Athènes ne sont pas négligeables, car au-delà de la sémantique, il y a un net recul par rapport aux promesses électorales de Syriza. Ainsi est-il accepté de continuer à se placer sous la supervision des experts délégués sur place.
Et maintenant, on va écouter ce qui se disait à peu près au même moment à Athènes.
C'est avec une demi-journée de retard que le gouvernement de Tsipras va présenter son catalogue de réformes structurelles et sociales qui vise, s'il est accepté par Bruxelles, à débloquer l'extension du plan d'aide à la Grèce. Athènes insiste pour y inclure un volet de dépenses sociales pour faire face à la crise, volet qui comprend des soins gratuits, du chauffage et des transports pour les plus démunis, ainsi que des coupons de nourriture et une aide financière aux plus basses retraites, soit un coût financier de 1,8 milliard d'euros. Côté réforme,
je pose la question à Rosa Moussaoui de l'Humanité, puis Arnaud Le Parmentier du Monde. Est-ce qu'on n'est pas dans un scénario déjà un peu écrit que nous, collectivement, journalistes à pression, il y a la liesse? Et puis, il y a l'épreuve du pouvoir et finalement, il y a les renoncements. Rosa Moussaoui.
D'abord, il n'y a pas eu de liesse à Athènes le soir des élections. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gravité, d'inquiétude, du soulagement certes, mais il n'y avait pas véritablement de liesse. S'agissant des renoncements, moi, je crois que l'accord à l'Eurogroupe, c'est le début et ce n'est pas du tout une fin en soi. C'est la première fois dans un texte européen qu'on voit des termes comme hausse du salaire minimum, comme politique de croissance, politique de relance. Il reprend un certain nombre de points du programme de Syriza.
Excusez-moi, Rosa Moussaoui, vous écrivez quand même dans l'Humanité un mercredi dernier, le plan de mesures présenté à Bruxelles ménage des interstices qui devraient permettre d'engager certaines des réformes les plus urgentes pour soulager le peuple grec.
Bien sûr, c'est
pas non plus l'emballement. Hein.
Non, c'est pas l'emballement, c'est pas le programme de Syriza, mais c'est le fruit d'un compromis, c'est le miroir d'un rapport de force où la Grèce est seule contre 18 autres à l'Eurogroupe. Et on ne peut pas demander à la Grèce seule de mettre en cause 30 ans de politique libérale qu'on a même gravé dans le marbre des traités. Donc je crois que c'est le fruit d'un rapport de force. Et en même temps, les politiques, les mesures que continue d'annoncer aujourd'hui le gouvernement grec, ils continuent d'aller dans le sens de cette volonté de relancer l'économie et de stopper l'austérité.
Annabelle Grelier, pas de liesse à entendre notre consoeur de l'Humanité,
après,
donc pas de déception.
Ça dépend ce qu'on appelle de la liesse, mais quand même, s'il y avait énormément de joie, il y avait même un feu d'artifice. Non, et les gens pleuraient, mais bon. Oui, alors après, quel est le niveau de la liesse? Où est-ce qu'on la voit? Moi, j'ai quand même vu beaucoup de joie et beaucoup de soulagement ce soir des élections. Maintenant, sur les compromis, est-ce qu'ils renoncent? Parce que finalement, c'est ça, si on rejoue un théâtre grec.
Compromis ou compromission?
Bon, moi, sincèrement, je pense qu'il tiendra ses promesses et ce sont des compromis d'attente.
Arnaud Le Parmentier, Le Monde, vous disiez tout à l'heure, Mitterrand a mis 2 ans pour renoncer. Tsipras, d'après vous, renonce en seulement 1 mois. Ça, finalement, ça fait vendre, ça fait du suspense, ça fait des rebondissements pour nous tous, journalistes. On lèche, on lâche, on lynche?
Non, je ne crois pas du tout. Je pense qu'on a vécu depuis 10 ans, en termes financiers, des catastrophes qu'on imaginait n'arriverait jamais. Je pense à la faillite de Lehman Brothers et à la crise de l'euro. Donc, je ne dis pas que ça va se reproduire, je ne pense pas que ça va se reproduire, mais on n'est pas dans un jeu. Je pense qu'on est dans des choses très sérieuses. Le risque qui est, pour le moment, je trouve ça plutôt satisfaisant de voir qu'il y a des compromis, donc les gens sont autour de la table, donc la Grèce a 5 mois, donc ça va être très dur pour Tsipras vis-à-vis de ses propres troupes, je suppose. Je pense que les Européens et les Allemands veulent garder l'intégrité de la zone euro, mais on est dans une situation dangereuse, surtout quand on voit tout l'univers géopolitique. Donc, je ne crois pas à cette mise en scène médiatique. En revanche, je maintiens qu'il y avait l'IS le soir des élections. Je recevais plein de tweets me disant « Que fait le Parmentier? Il est planqué, il a déjà fui. »
Et qu'est-ce que vous faisiez?
J'attendais de répondre, parce qu'il fallait laisser passer un peu de temps. Et donc, j'ai passé un très bon moment à regarder ça. Ce que je pense, qui est très intéressant, c'est de voir à quel point une même réalité est décrite de manière radicalement différente dans 2 pays qui ne sont pas parties prenantes directes, sont la France et l'Allemagne. C'est ça qui est très intéressant.
Un petit peu quand même. 65 milliards de dettes grecques détenues par l'Allemagne, 40 milliards par la France.
On a vécu la même chose, mais la description médiatique n'est pas du tout la même. Il y a une empathie généralisée en France pour les Grecs, qui est historique. C'est Giscard qui fait rentrer la Grèce dans l'Europe en disant
Platon ne peut pas rester
contre les Allemands. Helmut Schmidt est contre. Et vous savez ce que lui dit Giscard? Giscard lui dit « Ouais, mais on va vous reparler de l'occupation nazie. » Donc, on est toujours dans la même histoire. Et c'est Lionel Jospin avec Chirac qui veulent faire rentrer la Grèce dans l'euro, parce qu'il faut que l'euro soit large. L'euro, il est sur le modèle allemand, mais il faut que ce soit un grand euro démocratique du Club Med du Sud. Donc, on a une sympathie grecque historique des Français et une méfiance allemande historique.
Et en même temps, est-ce que si on a...
Annabelle Grelier,
je me pose pour revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais est-ce que cette empathie qu'on a sur les Grecs, est-ce que c'est pas une empathie sur la population grecque? Parce qu'est-ce qu'on peut pas faire la différence entre population et dirigeant?
Alors je vais vous dire quelque chose de très désagréable. Moi, quand je suis allé en Grèce, à chaque fois, alors il paraît que ça a changé un petit peu, à chaque fois que j'arrive, la machine elle est cassée, on peut pas payer avec la carte de crédit.
Mais la corruption, vous croyez qu'elle commence chez le commerçant?
Bien sûr, quand les gens refusent de payer leur impôt.
Parce que si la tête est pourrie, je ne vois pas comment le reste
peut même pas l'être. Quand je vois M. Tsipras qui propose que le seuil de non-imposition soit remonté à 12 000 euros en Grèce, qui a un PIB 2 fois plus faible que la France ou 3 fois plus faible par habitant, et que le seuil de non-imposition en France n'est pas 12 000 euros, c'est 9 000 euros, il y a un petit problème.
Mais là, on est dans le cliché complet.
On n'est pas dans le cliché, on est dans les chiffres.
Il va falloir terminer. Alors,
on est dans le cliché. Les impayés grecs, ça concerne 5%. Des fraudeurs doivent 85% des impayés. Donc, ce n'est pas tous les Grecs qui sont des fraudeurs. Non. Mais c'est pas une histoire de mauvais élèves grecs. L'Europe, elle est en crise en dehors de la Grèce. Elle l'était déjà avant. Et donc, la Grèce est le symptôme de ça. Mais
l'Europe
c'est pas la Grèce.
L'Allemagne
n'est
pas en crise. Elle est en plein emploi. Attention. Record d'exportation.
Oui. Merci à tous.
Ah, oui, c'est la moitié
non,
de la
mais
zone
ça
euro.
Veut pas dire que la méthode est bonne, en tout cas pas en ce moment.
Merci beaucoup, Annabelle Grelier de France Culture. Merci, Rosa Moussaoui de L'Humanité. Merci, Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. On remercie également Cyril Sauvageau qui était avec nous en direct de Berlin et Hélène Koliopoulou de l'agence France Presse en direct d'Athènes. Il est bientôt 9h05.
Le secret des sources.
On termine avec l'actualité de la semaine à l'étranger. On va ce matin en Grande-Bretagne. Bonjour Franck Matevon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes en direct de Londres, correspondant de France Culture en Angleterre. Cette semaine, Franck, lundi précisément, la banque HSBC a reconnu qu'elle avait coupé le robinet de la pub à des journaux dont elle jugeait la couverture hostile. Franck, c'est un éditorialiste du Daily Telegraph qui a lancé la polémique en démissionnant spectaculairement.
Oui, il s'appelle Peter Oborn, c'est un journaliste réputé, il tenait depuis 5 ans le grand édito politique du Daily Telegraph, le quotidien conservateur. La semaine dernière, il a expliqué dans une tribune publiée sur le site Open Democracy pourquoi il a démissionné du journal. Oborn estime que le Telegraph n'est plus ce qu'il était, il énumère les erreurs commises ces dernières années, l'obsession d'Internet et surtout, en effet, il dénonce l'ingérence des annonceurs dans le contenu éditorial et il cite le cas de HSBC qui donne beaucoup d'argent au journal en publicité. Or, le Télégraphe n'a presque rien dit du scandale SwissLeaks, cette affaire d'évasion fiscale avec la complicité de la banque. Une affaire sortie ici par le Guardian, mais couverte par tous les médias, sauf le Télégraphe donc. Peter Oborn évoque d'autres informations mettant en cause HSBC, que le journal aurait préféré taire. Le Daily Telegraph dément vigoureusement une attaque, je cite, sidérante et infondée, mais beaucoup de journalistes du quotidien ont apporté leur soutien, anonyme toutefois, à Oborn. On a ainsi appris que d'autres histoires avaient été escamotées pour des raisons commerciales. Apparemment, au Telegraph, le mur n'est pas étanche entre la pub et l'éditorial, et le régulateur de la presse britannique a annoncé une enquête.
Et Franck, ces révélations, du coup, ont relancé les hostilités entre le Daily Telegraph et ses concurrents.
Oui, alors c'est vrai que ici les journaux se livrent
ils ont l'habitude,
une concurrence féroce. Ouais, c'est assez habituel et c'est parfois assez étonnant vu de France. Ici, un quotidien n'hésite pas à taper sur son voisin de kiosque. Les concurrents du Télégraphe se sont donc délectés de la démission de Peter Oborn et des accusations qu'il porte. L'info a fait les gros titres de plusieurs journaux. Quelques jours plus tard, le Daily Telegraph a riposté dans un article publié en une, non signé, qui plus est. Il a affirmé que deux cadres commerciaux de News UK, la société qui possède le Times, c'est le Sun, l'Empire Murdoch, s'était suicidé en raison de pression au travail. Ce papier, peu étayé, a été condamné par toute la presse anglaise. Le Télégraphe a aussi pris pour cible le Guardian, accusé d'avoir été influencé par Apple pour un article sur l'Irak. Ambiance délétère donc dans la presse anglaise. En tout cas, le Daily Telegraph, le journal qui se vend le mieux, il faut le dire, outre-Manche, hors tabloïd, ne sort pas grandi de l'histoire.
Effectivement, ça y va fort entre journalistes britanniques. Franck, pour conclure, quelle est la santé économique des journaux outre-Manche ? Nos confrères auraient beaucoup plus conscience que nous qu'ils appartiennent au secteur marchand.
Ben oui, c'est un peu le pragmatisme britannique, Frédéric. Ici, quand on parle à des journalistes, et c'est sans doute un peu le cas aux États-Unis, par exemple, aussi, ils se disent très conscients de travailler pour une entreprise dont les clients sont les lecteurs. Il n'y a sans doute pas tout à fait la même approche dans la presse française. Donc les journaux ont besoin d'argent, ils le savent. Il y a toujours eu beaucoup de publicité dans les journaux britanniques. Généralement, la pub et l'éditorial font plutôt bon ménage. Les deux secteurs sont totalement séparés. Cela dit, pas étonnant que cette affaire tombe en ce moment. La presse anglaise, pour répondre à votre question, est en crise, comme partout dans le monde, bien sûr. Et le Télégraphe en particulier, est très dépendant de la pub. Il gagne encore de l'argent, mais ça ne l'empêche pas de perdre des lecteurs. Le journal a beaucoup licencié dernièrement. Le Guardian lui présente chaque année de lourdes pertes, mais il est détenu par un trust qui lui assure une sorte de matelas financier, en tout cas pour le moment. Le Times et l'Independent appartiennent à des groupes qui s'appuient sur d'autres médias plus rentables. Les tabloïds se portent un peu mieux, mais perdent aussi des lecteurs.
Voilà, ça pourra faire l'objet d'un futur secret des sources. Merci Franck Mathevon, en direct de Londres, correspondant en Grande-Bretagne pour France Culture. Merci à tous d'avoir écouté Le Secret des Sources, une émission préparée ce matin avec Mathias Mégy, réalisée par Alexandre Fougeron. Jean-Frédéric était à la console. Le débat continue sur franceculture.fr, Twitter et Facebook. Émission disponible en réécoute dans quelques minutes. À 9h05, après le journal de Sarah Petitbon, réplique d'Alain Finkielkraut, quelle histoire de France ? Point d'interrogation, avec Jean Sévilla et Dominique Borne. Tout de suite, le rembobinage. Bonne journée.
Tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on n'est pas allé voir un peu comment ils vivent, c'est pas une vraie réalité pour nous, l'austérité. On dit qu'on vit l'austérité en France, mais ça n'a rien à voir avec l'austérité qu'on peut vivre en Grèce.
Qu'est-ce que c'est l'austérité grecque, bah, alors ?
C'est des gens qui ont plongé dans la misère.
La plupart des journaux allemands sont quand même assez sévères vis-à-vis de Tsipras. Le ton général est plutôt méfiant, même si la quasi-totalité des journaux reste favorable au maintien de la Grèce dans l'euro.
C'est le miroir d'un rapport de force où la Grèce est seule contre 18 autres à l'Eurogroupe, et on ne peut pas demander à la Grèce seule de mettre en cause 30 ans de politique libérale qu'on a même gravé dans le marbre des traités.